sa Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à Toulouse, 97.9.
Et c'est avec le Tour de France qui va commencer dans notre belle région que débute ce présent ce midi, des températures très chaudes encore pour ce mercredi, 36 attendus dans le Gers, 35 dans Haute-Garonne, 32 dans les Hautes-Pyrénées, 30 dans les Pyrénées-Atlantiques. Voilà quelques températures. N'oubliez pas que si vous êtes fragile, restez un maximum au frais. Et puis si vous ne vous sentez pas bien, surtout n'oubliez pas soit d'avertir un voisin, soit d'appeler les secours. Voilà, et n'oubliez pas également de boire. Le sommaire de ce magazine, de ce présence midi, dans quelques instants, on va partir dans un endroit majestueux. C'est à Castelnau-Rivière-Basse, sur le nord du département du Haut-Pyrénées, dans les caves Montus, les nuits impériales où se mêle notre histoire, et puis également le vin du Madiran, dans les châteaux Montus, où on aura la directrice du château Montus qui sera à notre, notre micro. On parlera d'ailleurs aussi de D'Artagnan et de ce beau spectacle qu'il nous propose. Arnaque aux faux conseillers bancaires, ce sont des conseils que vous donnera le commissaire du Gers, de Auch, et puis également la préfecture du Gers, qui donnera quelques conseils. Et puis on finira par un personnage célèbre qui s'appelle Sherlock Holmes. Et bien il y a un club qui existe partout en France, ça s'appelle le Club Sherlock Holmes, et on aura un de ses adhérents et qui sera à notre micro, et c'est le club de Pau, à côté donc, pas très loin de Lourdes. Voilà pour le sommaire de ce magazine.
Radio Présence à Montauban, 93.3.
Les Nuits Impériales reviennent les 10, 11 et 12 juillet au château Montus pour une cinquième édition. En seulement 4 ans, cet événement s'est imposé comme l'un des grands rendez-vous de l'été dans le sud-ouest, avec près de 1500 spectateurs à chaque édition et plus de 4000 repas servis. Alors cette année, le public est invité à découvrir une création originale autour de D'Artagnan, portée par une équipe artistique de renom, avec entre autres Frédéric Garcès à l'écriture et à la mise en scène, Bruno Spietzer à la direction artistique, sans oublier le chef étoilé Cédric Béchade, qui signe le dîner de cette édition. Alors pour nous parler de cette nouvelle aventure et des ambitions des Nuits Impériales 2026, merci à vous Laurence Brumont d'avoir accepté notre invitation. Bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à tous. Oui, je voulais juste quand même préciser, oui, c'est au Château Montus que se déroule ce grand spectacle sous les étoiles, où on fait appel aux cinq sens. Mais attention, c'est pas 4000 repas qui sont servis à cette occasion. On sert environ 800 repas, ce qui est déjà beaucoup.
Ce qui est énorme. D'accord.
Ce qui est énorme, voilà. Et mais c'est parce que je voudrais pas faire peur aux gens. 4000 personnes, vous savez, ça fait beaucoup. Non, surtout que là, c'est des soirées minimalistes. Hein. C'est pour ça qu'il faut réserver ces places, parce qu'en fait, on a peu de places. Et en plus, je trouve que par rapport à cette période de chaleur où on cherche, vous savez, des lieux oui, où on va vers la fraîcheur. Eh bien, tout se passe à l'intérieur, sauf à la fin, vers 22h30, à la fraîche dans la cour du château, avec l'arrivée de la brise qui vient des Pyrénées, on va pouvoir vivre cette expérience culturelle, historique, voir défiler notre période d'histoire de France autour de Charles de Batz, qui est le futur D'Artagnan, voilà, qui est l'histoire de ce jeune c'est vraiment sa vraie histoire. En fait, c'est peut-être l'histoire qu'on n'a jamais entendue et qui va être mise en scène par Bruno Spesser, ce metteur en scène incroyable,
oui.
qui organisait autrefois ces grands le grand festival de Gavarnie.
Tout à fait.
Qui, lui, drainait je ne sais combien de personnes. Mais nous, on est minimaliste parce qu'on a une salle qui est notre cour du château qui nous limite. Et on cherche vraiment à ce que les gens qui viennent vivent ce moment comme un privilège. Voilà. Et on sort et on a deux types d'expériences. On a une expérience, le buffet à l'ancienne avec plusieurs entrées, plusieurs plats, plusieurs desserts que l'on propose avec notre chef Loïc. Tout ça, c'est dans les chais, à la fraîche. Et ensuite, on a le grand dîner avec un chef étoilé qui est Cédric Béchade cette année, qui est lui donc un grand dîner qui est servi de façon aller aux étoilés, donc il y a le nombre de places est encore plus restreint. Et ensuite on fait des visites, on fait des dégustations, tout ça à l'intérieur. Visite des chais, visite et découverte finalement de l'histoire aussi de notre château Montus, l'histoire de la création. Alain Brumand, qu'est-ce qu'il a, comment, et c'est grâce à Alain Brumand d'ailleurs aujourd'hui, si Château Montus est ce château, ce lieu où on vient pour déguster, où on vient pour se réunir, se rencontrer, pour faire rayonner finalement notre grand sud-ouest, ce Piémont pyrénéen, puisque on est un vignoble de Piémont, et découvrir nos magnifiques produits. Bon, je dis magnifiques, je ne devrais pas dire magnifiques, mais ces produits aussi de notre région, le noir de Bigorre, puisque le noir de Bigorre avec la notre partenaire Herbaé sera présent, Anouk et Nicolas en personne, pour faire déguster, puisque pendant ces trois soirs, on déguste aussi du noir de Bigorre, on déguste nos vins, et on partage un grand moment. Puisque cette histoire, pour nous, elle doit se vivre, elle doit se goûter, elle doit se ressentir, puisqu'on est en immersion avec des images qui défilent, notre histoire de France qui va défiler sur la façade du château, et vous allez voir comment il se transforme, ce château. Grâce à ça, à des ingénieurs qui travaillent chaque année et qui produisent un spectacle qui est unique, et qui est une création artistique incroyable avec des voix et de la musique en live, puisque les chants qui ont été créés pour cet événement, tout ça dans l'esprit de Charles de Batz, de ce D'Artagnan et de l'historienne qui sera présente, puisqu'il y a aussi des conférences, puisqu'on peut vivre vraiment à partir de 15h différents moments et d'activités, et notamment des conférences dans les chais souterrains, dans la cathédrale du Tanat. Nous allons organiser ces échanges, ces causeries autour de qui était ce Charles de Batz, avec Odile Bordas, qui sera présente, qui est cette dame qui a cette historienne qui a écrit sur D'Artagnan, qui est celle qui connaît, je crois, la vraie histoire et qui a tellement œuvré pour faire connaître cette histoire de D'Artagnan, qui aujourd'hui, quand on regarde D'Artagnan, c'est vraiment l'homme le plus populaire du monde entier. Les Japonais, n'en parlons pas, les Américains, enfin, tout le monde aime ce personnage. Et nous, ce qui nous intéresse chaque année quand on définit les thèmes, c'est de se dire, ces hommes, qui sont-ils? Quelles étaient leurs valeurs? Parce qu'aujourd'hui, c'est ça notre France, c'est des valeurs humaines qui font que, voilà, époque par époque, on évolue.
Ouais. Pourquoi vous avez voulu créer ce spectacle? Qu'est-ce que vous avez voulu? Alors, celui d'Artagnan, c'est la 5e édition, donc il y a eu d'autres éditions avant, bien sûr. Oui. Qu'est-ce que vous recherchez? Est-ce que, quelque part, le no-tourisme est en plein essor? Est-ce que ce type d'événement permet de faire découvrir vos vins à un nouveau public?
Oui, aujourd'hui, il faut savoir que ce soit Alain, que ce soit nous, que ce soit notre équipe, notre entreprise, on aime l'histoire, on aime l'histoire, on aime la culture, on aime le patrimoine. Et Alain, quand il a pensé Montus et Bouscassé, c'était pour lui, il savait qu'on n'était que de passage et qu'il fallait laisser une trace. Et aujourd'hui, il y avait Montus, Château Montus, qui est inscrit dans les archives départementales, qui a une histoire incroyable de parcours d'hommes qui ont vécu, qui ont fait que Château Montus, et Alain a fait partie de ces gens qui ont redonné vie à ce château qui était en ruine il y a encore que 40 ans. Et c'était lui redonner ces belles lettres de noblesse, puisque ce Château Montus, on avait su qu'il y avait trois généraux d'Empire. C'est pour ça que la première édition, c'était sur les trois généraux, les frères Noguès, qui étaient trois jeunes paysans de Castelnau-Rivière-Basse qui sont devenus des généraux d'Empire sous Napoléon et qui ont fait les grandes guerres napoléoniennes aux côtés de Napoléon. C'était pour, on s'est dit, mais c'est incroyable quand on a découvert l'histoire de ces trois jeunes, dont un qui avait vécu au château Montus. Eh bien, on est parti de leur histoire et on a romancé une histoire qui a permis de faire la première édition. Et on a trouvé que cette première édition autour de ces hommes qui sont nés dans notre territoire était un moyen de faire connaître un peu plus et de faire rayonner notre patrimoine. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait du vin, on ne fait pas que du vin et on ne vient pas que pour déguster un vin et peut-être en avoir chez soi pour en boire une bouteille une fois par mois. C'est pas que ça. On doit et on se doit aujourd'hui d'être autre chose que des faiseurs de vin. On doit être des faiseurs de rêves, de moments d'expériences inoubliables, de moments dont on va se souvenir, dont on a besoin. Besoin de se replonger peut-être parfois dans l'histoire pour savoir qui on est, de pouvoir offrir des choses de qualité, parce que à tout moment, c'est une expérience assez courte, c'est une demi-journée, on va dire, un spectacle qui dure une heure et demie, mais tout doit être à la hauteur pour passer un moment inoubliable, voilà. Et faire connaître notre région, faire connaître que derrière une entreprise comme Château Montus ou derrière Château Montus, il y a des hommes et des femmes, nos équipes sont engagées dans le cadre de ce festival. C'est incroyable parce qu'ils sont fiers de pouvoir accueillir, de pouvoir montrer que ben, finalement, ce sont ces hommes et ces femmes qui font partie de cette petite histoire contemporaine qui demain, on le souhaite, grâce à notre fils Antoine qui reprend les rênes de Château Montus, continuer cette belle aventure. Parce que c'est ça ce que l'on veut aussi démontrer, qu'on est un patrimoine vivant que l'on doit transmettre dans le temps, comme notre histoire de France. Et ce sujet-là, et ce thème-là, qui est l'histoire, qui est la culture, qui est ce moment partagé, où au final, on apprécie, on aime, et on sait aujourd'hui que faire du vin, d'être vigneron, c'est au-delà qu'une simple bouteille de vin que l'on trouve sur un rayon, c'est tout ce que l'on peut proposer. Et on sait aujourd'hui que ce grand sud-ouest est de plus en plus demandé, on le voit, on est de plus en plus sollicité. Donc on se doit d'offrir ces moments-là pour les gens qui viennent nous voir, qu'on a l'honneur de pouvoir accueillir et qui ont, le bon goût de venir dans le sud-ouest parce qu'aujourd'hui, c'est de bon ton de venir séjourner quelques jours, de passer par Lourdes parce que pour nous, Lourdes, c'est l'incontournable. Il y a Lourdes, le Pic du Midi et puis Château Montus puisque c'est des lieux et c'est des endroits, regardez Lourdes. C'est un endroit, c'est féerique. Quand on arrive, il se passe quelque chose. Ce que l'on doit générer, créer aujourd'hui, c'est ces moments incroyables où on retrouve finalement des gens qui se retrouvent en famille. Nous, on a beaucoup de familles qui viennent, oui. Des gens de toute génération et des gens qui vont venir en short, d'autres qui vont venir parce qu'ils vont s'habiller, parce qu'ils vont au château. Et c'est très bien. Et on veut qu'il y ait cette unité, ces gens qui se retrouvent. Voilà, vous voyez, qu'il y ait cette universalité autour de Montus. Parce que, au final, c'est aussi ce sud-ouest qui amène ça.
On vous sent vraiment très, très passionné. Et d'ailleurs, vous avez été récompensé par la revue du Vin de France pour votre accueil au domaine. Et ça, je vous interviewant, je le comprends très, très bien.
Je crois que ce prix que nous avons eu en début d'année, ça nous a touchés. Mais ce n'est que le début, là, je peux vous dire. Parce que vous savez, quand on a un prix comme ça, ça veut dire qu'il va falloir travailler, mais 10 fois plus, montrer qu'on est capable de faire encore mieux et toujours mieux. Et puis surtout créer la nouveauté, donner l'envie aux gens de venir nous voir. Sachant qu'on reste toujours très authentique, très vrai, très transparent. Et quand les gens viennent nous voir, c'est ce qui nous a été fait remarquer, mais il faut rester vrai, il faut rester transparent. Il faut montrer cette humanité qu'il y a dans tout ce que l'on fait, dans tous nos gestes.
Vous avez des personnalités qui sont venues vous rejoindre à travers ce spectacle. Vous avez donné les noms tout à l'heure, que ce soit M. Spetzer, que ce soit
Madame... Oui, Frédéric Garcès, Odile Bordaz, oui, bien sûr. Et il y en aura d'autres.
Ils répondent facilement à votre invitation et à ce projet.
Ah oui, de suite, vraiment. Et puis on a fait nos preuves, première édition, deuxième, on s'installe vraiment. Et en plus, on a des on a des partenaires également privés qui nous accompagnent, et de plus en plus on associe, parce que vous savez, aujourd'hui, avec la période que l'on est en train de vivre, il faut réinventer notre façon de travailler, de vivre ensemble, de travailler ensemble. Et on a des clients, on a des fournisseurs, mais je trouve que le mot client et fournisseur, c'est très réducteur. Aujourd'hui, on parle de partenaires, que ce soit pour vendre comme pour acheter, comme pour travailler, parce qu'on a besoin de technicité, on a besoin de savoir, on a besoin de matière. Et on réapprend aujourd'hui, et je pense qu'on est dans une ère où on réapprend beaucoup de choses, où on est sur, c'est pas la fin du monde, c'est simplement un nouveau monde. Et moi, je suis plutôt optimiste. Hein. Donc, ouais. Pour moi, c'est le nouveau monde qui est en construction.
Eh bien, écoutez, nous, on va donner rendez-vous, bien sûr, à nos auditeurs pour les 10, 11 et 12
oui.
juillet. Voilà, rapidement. Donc, 14h, c'est des visites immersives au cœur de l'excellence Brumont.
Oui.
À 17h, la conférence, donc, sur D'Artagnan dans l'histoire.
Oui.
À 19h30,
oui. Les dîners au buffet. Et surtout, et 22h30, le spectacle. Mais surtout, parce qu'il faut réserver en
Exactement.
Ligne.
Exactement.
Et si vous aviez des problèmes, alors si vous aviez des soucis, n'hésitez pas à nous appeler. Appelez notre 05 62 69 74 67. Appelez-nous si vous aviez des difficultés. Mais c'est très simple, normalement. En ligne, il faut cliquer sur les 3 jours. Alors, il y a des expériences qui sont complètes. Il reste encore quelques places sur le samedi, le dimanche, quelques-unes sur le vendredi, mais n'hésitez pas, si vous avez le moindre souci, vous nous contactez. Voilà, directement au Château, à Château Bouscassé, à Brumont.fr. Brumont.fr, c'est le site internet sur lequel vous allez trouver toutes ces informations en détail. Voilà. Et on sera très heureux de vous répondre. Et j'espère que ce ne sera pas trop tard, mais je pense qu'il y a encore quelques places, notamment au spectacle. Et pour des expériences gustatives.
Eh bien voilà, donc on rappelle juste les dates 10, 11 et 12 juillet au Château Montus. Vous pouvez donner l'adresse, c'est dans quelle ville ?
Castelnau-Rivière-Basse,
magnifique. Vous êtes à la limite entre les Pyrénées-Atlantiques, le Gers, et bien sûr, mais par contre vous êtes bien dans les Hautes-Pyrénées.
Nous sommes bien dans les Hautes-Pyrénées et très fiers d'être un Piémont pyrénéen, puisque on est du Piémont,
ouais.
Mais on adore nos Pyrénées. Voilà.
Un grand merci beaucoup à vous, Laurence Brumont. On donne une fois le site, hein, si vous voulez vraiment avoir des renseignements et réserver votre soirée inoubliable, c'est le www.brumont.fr et vous laissez guider. Et sinon, vous avez donné le numéro de téléphone tout à l'heure, 05 62 69 74 67 pour avoir des renseignements. Un grand merci à vous.
Merci beaucoup pour votre sollicitation. Au revoir.
Au revoir.
Présence à Tarascon-sur-Ariège 100.2.
En raison de la recrudescence des escroqueries dites aux faux conseillers bancaires, la préfecture du Gers et les forces de l'ordre appellent à la plus grande vigilance. Lors d'une conférence de presse, David Hicham, directeur de cabinet du préfet du Gers, et Philippe Friedrich, directeur départemental de la police nationale du Gers, ont fait un point sur ces arnaques qui se développent à grande vitesse. Premier signaux d'alerte, règle d'or pour ne pas tomber dans le piège, que faire si on est victime ? On les écoute, ils sont tous les deux au micro de Pauline Cazier.
Bonjour, je suis David Hicham, directeur de cabinet du préfet du Gers. Nous vous avons invité à un point pour faire passer des messages de vigilance en ce qui concerne la recrudescence des escroqueries aux faux conseillers bancaires dans le Gers. Comme vous le savez, les escroqueries aux faux conseillers bancaires sont de plus en plus fréquentes dans notre département et le préfet du Gers en appelle à la plus grande vigilance de chacun. Les escrocs, comme vous le savez, utilisent des techniques de plus en plus élaborées. Nous pouvons tous être victimes d'un tel type d'escroquerie et dans ce cadre-là, le préfet du Gers en appelle à la plus grande vigilance, qu'il s'agisse de la vigilance pour soi-même et de la vigilance pour les autres. Quelques messages clés sont à noter et le premier message est de ne jamais communiquer ses données personnelles, qu'il s'agisse de son code, qu'il s'agisse de ses identifiants bancaires, qu'il s'agisse de sa carte. Et en cas de doute, quand vous êtes saisi par un faux conseiller bancaire, le premier réflexe est de raccrocher et de solliciter directement votre banque. Vous avez un numéro d'urgence qui est disponible sur votre carte ou le site de la banque qui vous permet de pouvoir avoir à tout moment, un conseiller bancaire vrai qui pourra vous accompagner dans vos démarches.
Commissaire Frédéric, je suis directeur départemental de la police nationale du Gers. Donc effectivement, on a eu en début d'année une première affaire où on a élucidé, alors pas le conseiller bancaire, mais l'intermédiaire qui a pu faire transiter la somme qui a pu être obtenue indûment. On voulait déjà communiquer d'ailleurs à ce moment-là sur cette affaire parce que c'était l'occasion de faire aussi un peu le bilan de l'action des services, mais malheureusement durant l'enquête on s'est rendu compte que il avait multiplié les ouvertures de comptes. Alors c'est notamment souvent des banques en ligne, hein, parce que c'est plus difficile à traiter en termes d'investigation, hein. C'est plus anonyme, on avait détecté plusieurs ouvertures de comptes qui ont servi à peu près au même type de transaction, donc le fonds conseiller qui appelle, qui obtient le virement ou des codes confidentiels qui permettent de provoquer la transaction. Donc là, on est clairement sur un intermédiaire, mais qui a multiplié ce type de transaction avec de l'argent qui rentre, puis de l'argent qui repart souvent sur des comptes pas forcément identifiables. Donc effectivement, le message de vigilance, il est aussi très important parce qu'on sait que si on ne peut pas réagir immédiatement, les investigations sont extrêmement difficiles dans le temps, parce que si on n'intercepte pas ou la transaction ou le flux ou le premier vecteur des sommes qui sont détournées, souvent derrière c'est extrêmement compliqué parce qu'on part à l'autre bout du monde. Voilà, donc on avait fait cette première affaire. On a également une seconde affaire, alors plus largement que les faux conseillers bancaires. Le message qu'il faut faire passer, c'est qu'il faut être attentif à toutes les escroqueries. On peut se faire passer pour un faux conseiller bancaire, mais on a aussi pas mal les colis, les faux colis. Ça tout le monde a reçu un jour un SMS avec un colis, et comme on a régulièrement des colis en attente, il y a forcément un moment donné où ça tombe bien, ça tombe le jour où vous avez votre colis. Ah mince, le colis que j'attendais aujourd'hui ou demain. Voilà, donc les faux conseillers bancaires évidemment, donc, mais la stratégie est la même: ne pas communiquer de référence de carte bancaire, ne pas communiquer de code confidentiel, et ne surtout pas tomber dans le panneau et dans la précipitation, puisque un des facteurs de réussite de ces escroqueries, c'est que les gens sont mis en panique. Si vous réagissez pas vite, alors là il va se passer des trucs, donc forcément on donne parce qu'on se dit, pour protéger une toute petite somme, finalement on révèle des informations qui vont permettre des transactions beaucoup plus importantes. Et donc je disais, cette seconde affaire elle est un tout petit peu différente, c'est via des boîtes mail où les gens ont réussi à obtenir des documents, où ils ont falsifié les RIB et ont réussi à se faire verser soit des règlements de facture, donc pas du tout aux bénéficiaires de départ, mais sur des comptes dédiés. On a notamment dans cette affaire-là identifié une première transaction de quasiment 5000 euros, une autre transaction de pas tout à fait 1000 euros et une troisième transaction de 15 000 euros. Voilà, donc dans cette affaire-là, par contre, les individus sont renvoyés devant le tribunal judiciaire pour les faits d'escroquerie et puis diverses infractions qui sont liées à ce mode opératoire. Voilà, donc il y a un travail de fond qui est fait quand même, mais je le redis, c'est extrêmement compliqué. Si on n'intervient pas tout de suite, si on n'a pas tout de suite les bons éléments, les bons numéros, on vous appelle avec des numéros qui très rapidement n'existent plus, une référence bancaire qui très rapidement n'existe plus, et l'opération, quand elle est renouvelée par les escrocs, c'est avec un autre numéro, une autre référence bancaire. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut éventuellement mettre sous surveillance et voir s'il y a une personne identifiée adossée à ces ouvertures de compte. Voilà, donc il faut vraiment réagir très très vite. Et d'une façon générale, on se rend compte que c'est plutôt un phénomène qui est en augmentation. Voilà, d'où ce message de vigilance. En gros, pour la DDPN, sur l'ensemble des escroqueries qui sont constatées dans l'année, divers types d'escroqueries, environ un tiers concerne les escroqueries aux fonds conseillers ou les faux colis ou vraiment celles où on essaye sur un one shot d'obtenir juste un accès ou une validation d'opération. Allô, il faut que vous validiez, parce que faut que vous rentriez votre code, parce que sinon cette opération va se réaliser. Et puis voilà, donc ce type d'escroquerie clairement représente quasiment un tiers de tout ce qui est considéré comme infraction économique et financière.
Et là, est-ce qu'on peut avoir un chiffre à peu près depuis le début de l'année ?
Pour la DDPN, les escroqueries, les infractions économiques et financières, c'est environ entre 100 et 120 faits constatés par an. Sur les faits qui nous sont relatés via les plaintes, après il y a un certain nombre d'infractions qui ne rentrent pas forcément dans les statistiques d'une certaine façon, parce qu'elles sont justement traitées par ces plateformes qui, elles, recueillent les déclarations des gens, et voilà. Donc même si ça nous permet d'investiguer, c'est pas forcément, parce que les statistiques révèlent les infractions constatées sur le ressort de la zone, mais une escroquerie, on ne sait pas où elle s'est passée en fait. Vous avez un coup de fil, c'est pas parce que vous êtes à Bordeaux, à Auch ou à Toulouse que l'infraction va incrémenter les statistiques de Toulouse ou de Bordeaux. Voilà. Donc il y a un certain nombre d'infractions. Mais on sait que sur le volume complet, enregistrant statistique ou pas enregistrant statistique, on est à peu près dans ces chiffres. Allez, on va dire entre 100 et 150. Parce que tout n'est pas forcément exploité, entre 100 et 150, et un tiers de ces infractions, donc entre 35 et 50 infractions, concernent ce type d'escroquerie.
Et quand les victimes voient avec leur banque, est-ce qu'elles sont remboursées il faut qu'elles aient la preuve, hein. Comment ça se passe?
Alors, les dispositifs bancaires, mais je ne veux pas me prononcer pour les banques, si on comprend bien dans les déclarations de ces victimes, les banques remboursent les transactions frauduleuses, mais elles peuvent opposer aux clients, à leurs clients, la responsabilité d'avoir communiqué, par exemple, votre code. Le crypto, voilà. Donc, si vous avez communiqué des références, des codes qui permettent de valider une transaction qui est sécurisée par ces codes, il semble, mais après, ça doit être un arrangement aussi entre les banques et les clients, et peut-être en fonction du type de client ou du type d'escroquerie, mais les banques remboursent les opérations frauduleuses, sauf s'il y a une faute, même pas forcément une intention de frauder, mais s'il y a une malveillance ou voilà, si la victime s'est fait avoir, je ne sais pas s'il y a des transactions qui sont acceptées par la banque ou pas, mais normalement les dispositifs de sécurité sont censés pour ne pas permettre à distance de faire une opération à votre place.
Voilà, vous avez pu entendre David Hicham, directeur de cabinet du préfet du Gers, ainsi que Philippe Friedrich, directeur départemental de la police nationale du Gers. J'espère que vous avez retenu ces quelques conseils sur ces arnaques aux faux conseillers bancaires. Un grand merci à Pauline Cazier pour ce reportage et surtout pour ses bons conseils.
Présence à Montrégeau, 94.1.
Et l'été, on prend le temps aussi d'écouter ou de réécouter les chroniques que nous avons donc enregistrées pendant cette saison radiophonique. Bel été à tous. On retrouve tout de suite l'information grâce à notre étudiante Clémence Roux, qui est les écoles du journalisme de Toulouse. Et bonjour Clémence, à cette mi-journée.
Bonjour à tous. Dans l'actualité régionale, l'affaire Cédric Jubilard continue de connaître des rebondissements. Après les aveux annoncés par l'un de ses avocats, les investigations se poursuivent. Les enquêteurs doivent désormais vérifier les déclarations de l'accusé et tenter de retrouver le corps de Delphine Jubilard, disparue depuis décembre 2020. À ce stade, le procès de Cédric Jubilard reste prévu à la fin du mois de septembre devant la cour d'assises de Toulouse. La canicule continue de faire craindre des départs de feu dans le Tarn-et-Garonne. Les centres de traitement des déchets sont en état d'alerte. Les fortes chaleurs augmentent le risque d'incendie, notamment à cause des batteries au lithium jetées dans les poubelles. Les exploitants rappellent qu'une intervention rapide est essentielle pour éviter la propagation des flammes. Dans le reste de l'actualité, Toulouse Métropole ferme temporairement un accès à la base des loisirs de la Ramée. L'objectif est d'empêcher l'installation de gens du voyage sur le site pendant la période estivale. Les autres accès et les activités de la base restent ouverts au public. Attention également, si vous devez vous déplacer dans les Hautes-Pyrénées ou les Pyrénées-Atlantiques, le passage de la 6e étape du Tour de France entraînera d'importantes restrictions de circulation, notamment à Lourdes et Pau. Plusieurs axes sont fermés pendant une partie de la journée. Enfin, en sport, le Toulouse Football Club affiche de bons résultats en matière de valorisation de ses joueurs. Selon un classement publié par l'Observatoire du football, seul le Paris Saint-Germain fait mieux que le TFC parmi les clubs français dans ce domaine. Voilà pour l'essentiel de l'actualité.
Merci beaucoup à Clémence Roux, étudiante à l'école de journalisme de Toulouse. Dans quelques minutes, ce sera toute la rédaction française de Radio Vatican que nous retrouvons pour le journal de la mi-journée. Mais pour l'heure, est-ce que vous aimez, je pense que vous devez l'aimer, c'est un personnage célèbre, Sherlock Holmes. Eh bien, il y a un club dans notre région, on découvre ce club grâce à Philippe Donny, Diego Arabal, dans Un jour, un livre, un auteur.
Présence sur le plateau de Lannemezan, 92.2.
Un jour, un livre, un auteur, Philippe Nonni, Diego Arabal, Philippe Subercase.
Bienvenue à nouveau sur l'émission Un jour, un livre, un auteur avec Diego Arabal. Bonjour Diego.
Bonjour Philippe.
Aujourd'hui Diego, dans Un jour, un livre, un auteur, vous recevez donc un auteur avec quelque chose quand même d'assez spécifique. Il a une admiration pour...
un personnage de fiction dont nous allons dire quelques mots tout à l'heure. Donc je reçois aujourd'hui François Pardeillan, qui anime et qui est président du club Sherlock Holmes de Pau. Et donc c'est un personnage emblématique et il m'a semblé intéressant de glisser un peu du polar comme je fais d'habitude pour m'intéresser à ce qui gravite autour du polar. Et en termes de polar, Sherlock Holmes, c'est quand même un monument. Bonjour François.
Bonjour.
Bonjour François.
Merci de m'inviter.
Ben, c'est avec grand plaisir. Alors, dites-nous, Club Sherlock Holmes, ça consiste en quoi ?
Alors d'abord, il faut rappeler que Club Sherlock Holmes, ça ne date pas d'aujourd'hui. Du vivant de l'auteur de Sherlock Holmes, qui est Arthur Conan Doyle, donc, il est décédé en 1930, et dès 1934, il y a eu le premier club Sherlock Holmes aux États-Unis, à New York, qui s'appelait les Baker Street Irregulars. En fait, c'est les petits gars, les petits garçons là, qui donnent des informations à Sherlock Holmes, etc. Et ensuite, après, il y a eu la Sherlock Holmes Society of London, qui a succédé. Et ensuite, après, il y a eu des clubs de par le monde. Donc, aujourd'hui, on en recense à peu près ceux qui se déclarent, on va dire, dans un ouzou, puisque maintenant, sur le web, on peut avoir des ouzou. Il y a à peu près 500 clubs dans le monde. Et le nôtre, par exemple, alors, est régional. Voilà. Donc, il y a une société Sherlock Holmes de France, dont le siège est à Paris, et qui... comprend toute la France, mais après les membres peuvent être aussi à l'étranger, voilà. Et ensuite, moi j'ai créé un club, alors à Pau, parce que Pau, il fallait bien identifier, mais qui comprend les Pyrénées-Atlantiques parce que c'est le plus proche de chez nous, mais pourquoi pas la proximité, etc. En fait, quand on crée un club Sherlock Holmes, la tradition par rapport à tous les clubs du monde entier, c'est de donner une connotation par rapport à l'œuvre d'Arthur Conan Doyle, c'est-à-dire sur le personnage de Sherlock Holmes. Donc, notre club s'appelle le Pau Sherlock Holmes. Ça, c'est pour le local, en fait, que les gens nous identifient. Donc, il y a Pau et il y a Sherlock Holmes. Mais ça s'appelle le cabinet du patient résident, parce que le patient résident est une aventure de Sherlock Holmes parmi les 60 aventures écrites par Arthur Conan Doyle. Voilà. Donc, une fois qu'on a résumé ça, un club Sherlock Holmes, ça consiste à quoi ? D'abord, à réunir les gens qui sont intéressés, passionnés ou curieux de cette littérature. Cette littérature du personnage, bien sûr, de son auteur, pourquoi pas, ou de l'ensemble de cette littérature policière dont Arthur Conan Doyle a été un des précurseurs, mais pas que. Il y a eu d'autres gens avant lui, on pourra en parler après si vous voulez. qui ont initié le roman policier. Quand vous parliez de polar, il est évident que tous ces gens, ces précurseurs et Arthur Conan Doyle ont beaucoup participé à l'avènement du polar. Voilà.
Tout à fait. D'ailleurs, le polar n'est pas quelque chose qui est contemporain. C'est vrai que souvent, quand on pense au polar, on pense aux auteurs américains des années 30, mais je veux dire, eux sont les continuateurs d'une littérature qui est beaucoup plus ancienne et où on a du polar pur et dur, mais on a aussi des récits qui peuvent être ramenés à du polar. Je pense à l'affaire des Ferrets de la Reine écrit par Dumas.
Par exemple, bien sûr.
C'est du polar, puisque c'est une enquête, etc. Bien sûr. Même si c'est pas considéré de façon claire comme du polar. Et pour faire partie du club, est-ce qu'il est obligatoire d'être un auteur de polar sur les Sherlock Holmes? On parlera peut-être tout à l'heure du fait qu'aujourd'hui, on continue à publier des Sherlock Holmes, des aventures, oui, de Sherlock Holmes. Est-ce qu'il est nécessaire d'être auteur ou simplement aficionado, c'est-à-dire intéressé par l'Angleterre de l'époque de Sherlock Holmes, c'est-à-dire victorienne, intéressé par le personnage ou intéressé par l'auteur originel de ce personnage?
Alors, pour être membre d'un club Sherlock Holmes, il n'y a pas besoin d'être soit un expert en Sherlock Holmes, on va dire, ou un fan de l'auteur. Voilà, donc dans nos clubs, je vais dire, pour l'ensemble, hein, ce sont des gens qui sont... Alors, on a des gens, bien sûr, qui sont passionnés par le personnage, parce qu'un jour, ils l'ont croisé, soit dans un film, soit dans un livre, soit voire même un jeu vidéo, soit une BD, etc. L'auteur, pourquoi pas? Mais après, comme vous l'avez évoqué, il y a cette atmosphère aussi du Londres victorien au XIXe siècle et tout ça. Il y a toute cette atmosphère. Il y a aussi l'attrait pour la littérature policière. Alors, je sais que c'est un peu pédant, mais il y a une différence entre la littérature policière, on pourra parler d'auteur après autant que vous voulez, mais après, il y a eu le polar, il y a eu le noir, carrément. Voilà, donc il y a plusieurs branches, on va dire, de l'énigme policière, on va dire comme ça. Voilà. Donc, nous avons des membres, alors bien sûr, comme moi, par exemple, qui suis tombé dedans quand j'étais très jeune et le personnage m'a séduit. Je me suis dit, c'est un magicien, il voit tout ce que les autres voient, mais il arrive à réfléchir, à déduire, et ensuite, après, à en faire une science qu'il met au service du public, puisqu'il va essayer de trouver la vérité et tout ça. Il y a des gens qui sont intéressés par les clubs d'une manière générale, parce que ça parle de littérature policière, l'auteur aussi. Mais on a aussi des membres qui n'apprécient pas forcément ni l'auteur ni le personnage, mais qui aiment cette ambiance de discussion autour de la littérature policière, parce que la littérature, après, c'est tellement vague, nous, on s'est cantonné dans ça. On a pris le personnage de Sherlock Holmes en fer de lance, parce que c'est un personnage important et qui a marqué, on va dire, l'histoire du roman policier, en quelque sorte, du roman de détective, hein, on va dire plutôt comme ça. Voilà. Mais après, c'est ouvert à tout le monde. Alors, il y a des gens, parfois, qu'on rencontre, on discute avec eux, dans les salons, etc., quand on fait des conférences, et ils ont l'impression qu'il faut être un expert, qu'il faut s'y connaître. Pas du tout. Il y a des gens qui viennent pour écouter, pour échanger. Ils sont contents d'être avec nous, même s'ils n'ont pas une grande culture. Et puis la culture, ils se la font au fur et à mesure, si c'est nécessaire. Oui. Il y a des gens qui, bon, eux, ça fait longtemps qu'ils baignent là-dedans. Il y a des auteurs, effectivement, mais pas que. C'est très varié. Et je vous dis, il y a même des gens qui... Quand on fait, on prend par exemple une discussion et tout, vont être un peu les gens qui vont essayer de contrer, de dire oh, mais non, mais bon, l'auteur n'est pas non plus exceptionnel, c'est pas Dickens, c'est pas voilà. Donc effectivement, c'est très varié. Il y a pas de c'est ouvert vraiment à tout le monde à partir du moment où ils ont un attrait, un intérêt pour cette littérature.
D'accord. Et tout club qui se respecte a des moments forts où les membres du club se réunissent pour parler de l'objet du club. Alors, comment ça fonctionne
pour... C'est tout l'intérêt, en fait, quand on adhère ou on se rapproche d'un club comme ça, c'est de pouvoir partager soit sa passion, soit son engouement pour l'univers, tout ce que je viens d'évoquer, tout ça, soit pour être pendant un temps relativement court, hélas, mais en dehors un peu de toutes les vicissitudes de la vie, des problèmes, de sa vie personnelle, etc. C'est un univers, enfin, tel qu'on le veut, qui est un peu hors du temps. Voilà. Donc, à partir de là, quand on se retrouve, c'est pour parler, bien sûr, de livres. Alors, pas que de Sherlock Holmes, hein, c'est pas une secte, c'est pas Sherlock Holmes, ça n'a rien à voir. On parle de livres, on parle de ce qu'on a lu, on échange des livres, on se prête des livres, on se donne aussi pas que des livres, il y a toute la partie cinéma, il y a des gens qui sont intéressés par des BD, etc. Des BD, il en sort toujours, etc. Donc il y a toujours une actualité, alors autour, bien sûr, de Sherlock Holmes, pourquoi pas, et autour aussi de toute la littérature policière, contemporaine, bien sûr, ou parfois ben, quelques perles qu'on trouve, des choses... C'est comme ça que tous les clubs ont plus dans le monde, en fait, ont réfléchi un peu sur la genèse du roman policier et ont retracé, à partir de Sherlock Holmes, pour retrouver un peu tous les auteurs et tous les personnages détectives, etc., qu'on va retrouver dans la littérature depuis très longtemps. Ça peut remonter à Voltaire, ça peut remonter à des contes persans, etc. Quoi, voilà. Donc, ensuite, après, la fréquence des rencontres, ben, ça dépend des clubs. Nous, on a une rencontre mensuelle déjà, on fait le pub comme les Anglais. Voilà, donc tous les derniers vendredis du mois, on se retrouve dans un pub qui a une petite connotation anglaise de préférence, parce qu'on va toujours chercher des lieux sympathiques. Et on va, vient qui veut, alors là, il n'y a pas besoin d'être membre, on vient discuter, tout ça, bon, voilà. Voilà. Ensuite, après, on a d'autres réunions plus importantes, ça c'est pour les membres, donc on va essayer de créer, par exemple, un événement autour d'un livre, on va discuter d'un livre, alors ça peut être un roman policier contemporain, là, prochainement, on va discuter d'un livre d'Olivier Norek, Les brumes de Capellan, un livre qui est sorti il y a déjà quelques années, mais qui est bien construit, et on va discuter. Alors, ceux qui ont envie, parce qu'il y a des gens qui écoutent et qui sont contents d'être là, et bien, ils ne vont pas dire un mot de la séance, et c'est tout à leur honneur. Et puis, il y a ceux qui vont participer, alors d'autres qui vont parler, par exemple, de la structure du roman policier en tant que tel, d'autres de l'intrigue, comment elle est menée, d'autres de la technique policière qui est utilisée dans ce roman, voilà, de la forme générale, etc. Donc c'est une discussion ouverte, et comme je vous l'ai dit, c'est un peu un univers qui est hors du temps, parce que ça nous fait un peu changer de tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on entend et tout ce qu'on voit.
Philippe, si je comprends bien, je ne connaissais pas du tout, hein, moi je vous avoue, je découvre effectivement qu'il existe, donc vous le disiez tout à l'heure, 500 associations monde minimum. Donc qui mettent en valeur hein, un peu Sherlock Holmes et puis qui ne restent pas effectivement confinés à ça. Comment ça se passe ces réunions? Vous avez un animateur qui anime, parce que là je suppose que ça va être quand même assez compliqué d'arriver à animer, à faire circuler la parole, ou c'est un des membres de l'association qui à chaque fois est l'animateur ou l'animatrice, parce que je suppose qu'il y a des femmes aussi qui doivent y être, qui animent. Comment ça se passe?
Alors, il n'y a pas, alors quand on fait nos pubs par exemple, c'est convivial, donc il n'y a pas d'animateur. Moi, par exemple, dans le club, puisque je suis président, si j'ai des informations du club à donner, etc., les prochaines manifestations et tout, même si nous avons un bulletin après, et puis on échange, bien sûr, avec une liste sur Internet, comme tout le monde. Mais sinon, si vous voulez, quand on fait nos réunions où tout le monde peut participer, il n'y a pas il n'y a pas d'objet, il n'y a pas d'agenda avec des thèmes, etc. Donc chacun, c'est un moment convivial, on partage un verre, on est autour d'un verre, et puis on va discuter de ce qu'on a lu, on amène les bouquins qu'on veut, tiens j'ai lu ça, tiens voilà. Alors on essaie, en général on est, parce que tout le monde n'habite pas sur Pau, on a des gens sur la côte basque, on a des gens qui habitent au Loron, qui habitent dans la montagne, etc. Donc tous ne viennent pas, donc là, c'est, je vais dire, on est à peu près une dizaine, quoi. Voilà. Donc là, ça se passe normalement. Après, quand on fait nos réunions plus, plus officielles, là, il est évident qu'il y a quand même, on demande avant qui veut intervenir pour que ce soit quand même ordonné, etc. Donc, en fonction du thème, les gens qui veulent intervenir. Bon, il n'y en a jamais légion non plus, comme dans toutes les associations et tout ça, mais bon, ceux qui veulent participer, quel que soit leur niveau Et je veux dire, dans le sujet, etc., si, même si c'est des néophytes et qu'ils veulent apporter juste une appréciation, ils peuvent le faire. L'important, c'est qu'on puisse ordonner un petit peu pour avoir un timing en fonction des lieux que l'on va soit louer, soit occuper, etc. Voilà. Mais, et là, il va y avoir, bien sûr, un ordre de passage, on va dire, mais c'est après, chacun peut s'exprimer, poser des questions et tout ça. Et après, les animateurs, en général, bon, le président, bien sûr, a toujours un rôle d'animateur, c'est sa fonction aussi, mais tout le monde peut participer, il y a un vice-président, il y a des secrétaires, il y a trésorier, mais c'est, peu importe, ça c'est la structure d'une association. Mais après, c'est, on a des gens qui sont plus loquaces que d'autres, on a des gens qui ont plus d'informations que d'autres, et l'important c'est que tout le monde y retrouve son compte et que personne ne s'ennuie, puisque le but c'est d'aller dans un endroit où vous allez parler de personnages de papier, puisque la littérature policière ou quelle qu'elle soit, c'est du papier, c'est de la fiction en général, puisqu'on est dans, nous sommes dans la fiction. Voilà, donc à partir de là, on n'a plus à se poser des questions, de point de vue par rapport à ce qui existe dans dans notre société. C'est pas le but. Le but, c'est de parler de quelque chose, enfin, qui nous sort du contexte où on n'a pas à confronter des idées. Voilà.
Alors, pour résumer, en fait, au niveau de votre club, vous avez des séances de façon régulière, donc qui sont organisées le dernier vendredi de chaque mois, et dans laquelle, qui sont relativement informelles, en fait.
Tout à fait.
Dans lesquelles les membres du club
peuvent venir, on vous invite.
des sympathisants qui savent que ça se place à ce moment-là peuvent venir et participer à une discussion autour d'un roman ou de plusieurs romans, parler de ce qui a été lu, etc. Et vous avez aussi des moments qui, eux, sont formels, que vous organisez une fois, deux fois, peut-être trois fois par an, je ne sais pas, d'après
oui,
ce que j'ai compris,
ça dépend
c'est deux fois par an.
En fait, ça dépend aussi de la disponibilité et des opportunités. Ce qu'on cherche toujours, c'est avoir un lieu qui a une connotation un peu avec l'époque victorienne. Alors, à Pau, notamment, on a quand même une histoire avec nos amis britanniques. Alors, je dis britanniques, pas que anglais, parce que y a aussi les Écossais, les Irlandais, les Gallois, etc. Donc, il reste beaucoup de villas, de lieux encore très victoriens. Voilà. On a un cercle anglais aussi qui existe aussi dans un ancien domaine avec une très belle bâtisse. Donc on va chercher des lieux déjà qui ont une connotation et qui donnent une atmosphère. Voilà. Donc ça aussi, ça va avec la littérature policière, cette ambiance un petit peu, quoi. Enfin, avec, il y a, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas de la prétention, mais on essaie qu'il y ait quand même une certaine qualité spirituelle, voilà, quoi. Intellectuel entre guillemets, hein, bien sûr, sans se prendre au sérieux, mais voilà, que ça amène
un
quelque chose.
De sérieux, dirions-nous.
Voilà, il y a des romans qu'on propose parfois pour des discussions. On les lit, on dit non, on les écarte parce que ça n'apporte pas. Vous prenez des romans policiers qui sont très bien construits aujourd'hui, mais il y en a, et pourtant des auteurs très connus et qui sont franchement des gens qui sont qui ont pignon sur rue, et c'est très bien construit, mais parfois ça sort un peu de ce qu'on souhaite, au moins parler, échanger, voilà. Donc
très bien. Oui, Philippe,
Kelly, je suis auditrice ou auditeur de présence. J'entends votre interview. J'ai envie de faire partie de l'association. Alors comment on fait? Comment on peut vous contacter? Ça, c'est la première question. Et puis, quelles sont les actions de communication que vous avez pour essayer de vous faire connaître pour toutes les personnes qui auraient effectivement un amour assez fort, effectivement, pour ce personnage de Sherlock Holmes et qui auraient envie de faire partie de votre association?
Alors, effectivement, c'est une très bonne question. Au départ, moi, quand j'ai créé le club, il fallait que je me sacrifie un peu. Donc, j'ai été voir la presse locale. Et puis j'ai contacté un journaliste et je lui ai dit voilà quoi, je souhaiterais avoir un article pour dire que à Pau et dans les Pyrénées-Atlantiques il y a un passionné du personnage de Sherlock Holmes et de l'œuvre d'Arthur Conan Doyle et qui voudrait créer un club. Voilà.
Donc, et quelle était la réaction de la presse quand vous avez été en disant
alors,
ça?
Alors, la réaction de la presse, alors déjà pour accéder au bon journaliste qui veut bien vous accueillir, il ne faut pas passer par le représentant du village. Où, bon, il faut trouver. Alors, j'ai eu la chance, moi.
Ça j'ai vu que c'est plus facile sur Présence 5 quand même.
Ah, c'est formidable. <même. rire> C'est formidable. Et donc, j'ai eu la chance de passer par un biais. Vous savez, souvent, c'est chez son coiffeur qu'on apprend un peu tout ce qui se passe dans la ville. Et c'est chez mon coiffeur, en discutant. Comme ça, alors que j'avais jamais abordé le sujet avec lui, j'ai dit que je voulais avoir, je souhaitais rencontrer un journaliste, mais je connais un journaliste que je coiffe, etc., que tu appelles de ma part, et bon. Eh bien, ça a marché. Et alors, bien sûr, quand je suis arrivé, le journaliste, il m'attendait au coin du bois avec un petit sourire. Il s'est dit, tiens là, j'en tiens un bon.
C'est pour ça que je vous posais la question, parce que je me suis dit, c'est quand même pas...
Alors,
pas
anonyme, justement, je suis tombé sur une personne qui, d'abord, m'a regardé, quoi, sur tous les angles. Et il s'est dit, là, j'en tiens un bon. Alors, je suis pas arrivé avec la casquette de Sherlock Holmes, la pipe et la loupe, mais je les avais dans le sac, quand même. Je me doutais que... Bon. Et donc... je commence à essayer d'expliquer un peu mon engouement et puis mon projet, etc. Alors, je suis tombé sur une personne qui était vraiment, qui avait une grande culture, notamment dans la littérature policière. D'abord, il a essayé, bien sûr, de me tester, quoi, hein, pour voir à qui il avait affaire. Il m'a dit, mais ça vous arrive de vous promener chez vous habillé avec la robe de chambre et la pipe à la bouche et tout? J'ai dit non, pas à ce point, non, franchement non, etc. Et puis après, on a commencé à échanger des valeurs, on va dire, de romans policiers, échanger des auteurs et tout. Et là, j'ai vu que j'avais affaire à quelqu'un de qui avait de la culture. Et lui, il a compris aussi quel était mon projet.
C'était pas farfelu.
Donc, et à partir de là,
du sens, quoi.
On a eu l'article. Et une fois que l'article est sorti, en suivant, il y a quelqu'un de Radio Pau Béarn qui m'a contacté suite à l'article parce qu'il voulait faire une petite émission, voilà, pour qui était cet individu qui était fan de Sherlock Holmes et voilà.
Voulait faire,
et là aussi une petite émission avec la radio. Et à partir de là, il y a plein de gens qui m'ont contacté. Alors depuis, pour répondre à votre question, on ne fait pas de pub, sinon que nous sommes présents. Alors comme nous avons des auteurs. Nous sommes présents dans les salons du livre. On fait moins parce que bon, ça fait longtemps qu'on existe. Hein, ça fait 22, 23 ans maintenant qu'on existe. Donc je veux dire qu'on fait moins de choses remarquables parce que quand vous faites quelque chose, si vous voulez que la presse s'intéresse à ce que vous faites, il faut faire des manifestations en tenue. Alors je dis pas en costume, je dis en tenue victorienne. Un costume, c'est autre chose, mais bon, et donc à partir de là, il faut quelqu'un qui soit Sherlock Holmes, il faut quelqu'un qui soit avec les fracs, les dames avec les robes d'autrefois. On aime bien aussi, on le fait de temps en temps. Donc là, on a eu fait comme ça quelques manifestations. On a été reçu par André Lamarrère, qui a été quand même bon maire de Pau, mais ministre aussi de la République. François Bayrou, bien sûr aussi. Qui nous connaît aussi et qui nous a reçus, etc. Donc,
et depuis qu'il est Premier ministre, il vous a reçu également ou pas?
Ah non, pas encore, mais
ça va venir.
Ça pourrait se faire.
On lance l'appel donc sur présence pour que François Bayrou, en tant que Premier ministre, vous reçoive.
Mais nous avons de très bons rapports avec lui et on s'en félicite. Juste un aparté, c'est quand même quelqu'un d'ouvert, hein, c'est un agrégé de lettres et c'est au niveau de la littérature et tout, c'est quelqu'un qui connaît aussi, quoi. Voilà. Donc, effectivement, quand on fait ces manifestations-là, et pour se faire connaître, donc, on fait beaucoup, bon, on fait surtout les salons du livre, où là, c'est là où on rencontre des gens, et qu'on leur fait savoir...
C'est là où nous sommes rencontrés, d'ailleurs.
Tout à fait, qui est un club qui existe.
Vous avez réussi à avoir Diego Araba, l'adhérent, depuis que vous l'avez rencontré dans le salon du livre, ou pas?
Pas encore, mais...
Vous y travaillez?
On y travaille, effectivement.
Bon, on va y travailler aussi à présence, alors, avec Philippe Subercase, là, pour faire en sorte qu'il soit adhérent, oui.
Après, c'est très modeste, donc évidemment...
Ah non, mais c'est quelqu'un de très modeste, Diego Araba.
Ah bon, mais ça tout va, le monde, très bien, alors, mais...
Personne ne remet en cause, hein.
Nous aussi, nous sommes très modestes, alors ça tombe bien. Là. Entre gens du même monde, il n'y a pas de problème.
Je ne sais pas si vous remarquez, mais il est en train de prendre la main sur l'émission, là.
Non, je le branche un peu, allez-y, ça se compte, il suit.
Oui, vous avez un site internet ?
Oui, bien sûr. On n'a pas un site internet parce que bon, il faut des gens qui aient envie de participer. Alors, on a une page Facebook. Mm-hmm. Moi, le premier, je suis pas un fan, donc voilà. Après, on a le site de la maison d'édition qui s'appelle Le Patient Résident. Dans notre club, s'appelle Pour Sherlock Holmes, mais c'est le nom canonique. Canonique, le canon. Bon. Le canon, c'est l'œuvre complète d'Arthur Conan Doyle, les 60 aventures de Sherlock Holmes. Voilà. Donc, le nom canonique, c'est le cabinet du patient résident. Et ensuite, on a, donc, j'ai créé les éditions Le Patient Résident pour éditer des gens, des auteurs dans cette veine-là. Voilà. Et donc, on a un site sur le cabinet du patient résident où il y a les informations du club, notamment.
D'accord.
Voilà.
Donc, si des auditeurs ont envie d'approfondir, de prendre contact pour adhérer, etc., ils peuvent aller sur le site du patient résident.
Voilà.
Et à partir de là, de pouvoir voir qui vous êtes, et puis de pouvoir aussi voir votre actualité, mais aussi de pouvoir rentrer dans ce club s'ils en ont envie.
D'accord. Et avant de rentrer, ils peuvent venir nous voir, participer au pub, venir prendre un verre avec nous. Mmh. Et voir que bon, nous sommes des gens tout à fait normaux.
D'accord. Les différentes réunions, vous les présentez sur le site du patient résident ?
Non. Alors, on a une page Facebook aussi, mais bon, on l'a mis une fois, on a dit dernier vendredi du mois, alors des fois on peut bouger au dernier moment. Là, on tient une liste, alors, et de membres, on a des membres d'honneur aussi, et nous avons aussi des sympathisants qui ne sont pas membres du club, mais qui viennent quand ils veulent, etc.
De temps en temps, c'est ça.
Juste un aparté aussi pour ces rencontres du pub aussi. On essaie d'inviter quelqu'un qui a un rôle dans la culture, que ce soit dans la littérature, un auteur ou quelqu'un qui crée pièces de théâtre, etc. Et c'est comme ça qu'on a invité M. Arabal, par exemple.
Comme ça, vous avez invité M. Arabal. J'avais une question. Vous avez parlé de la maison d'édition. Là, il nous reste 3 minutes. Vous avez parlé de la maison d'édition. Combien d'auteurs vous avez publié par le biais de cette maison d'édition aujourd'hui ?
Alors, le but, étant donné que nous n'en vivrons pas, enfin, je n'en vis pas, puisque je suis l'éditeur, le commercial, etc. Bon, bref. J'ai édité que des gens qui m'ont contacté, mais que je connais aussi, dans la veine. Donc, il y a 5 auteurs, en fait.
D'accord. Voilà. Okay. Que vous présentez donc dans les salons du livre, je suppose. Vous avez rencontré Diego Arabal, donc vous avez un stand.
Exactement.
Avec l'ensemble des auteurs qui peuvent être présents.
Tout à fait, voilà.
Ok. Okay.
Oui, ça fonctionne vraiment comme une maison d'édition traditionnelle.
Ah, c'est
quand
une maison d'édition,
nous sommes rencontrés, il y avait François et puis il y avait 2 autres auteurs, si mes souvenirs sont exacts.
Oui, là c'était parce que bon, on a des auteurs aussi qui depuis sont édités et le but c'est de servir un peu de tremplin ou de marche pour que ces auteurs puissent être édités par d'autres maisons d'édition qui ont pignon sur rue, qui peuvent développer commercialement, etc. Puisque nous avons fait une activité qui est, on va dire, relativement limitée, parce que ça dépend de la disponibilité, du temps et tout ça. Donc ça permet effectivement, donc tous les auteurs ne sont pas forcément du stand, il y en a beaucoup qui sont réédités maintenant par d'autres auteurs, mm-hmm. D'autres éditeurs, et tant mieux d'ailleurs. Et voilà.
Vous êtes un marchepied.
Oui, mais tant mieux, on est très fiers.
Oui, mais c'est très noble.
Ah, nous en sommes très, très fiers.
Eh bien, écoutez, merci d'avoir été notre invité. On arrive au terme de cette émission. Je vous laisse rappeler Diego Arabal, donc notre invité, ce qu'il fait.
Alors, notre invité est François Pardeillan, qui dirige le club Sherlock Holmes de Pau, et qui est en même temps éditeur, comme il vient de nous le préciser, et j'espère qu'on aura l'occasion de le re-rencontrer. S'il édite un autre auteur, donc ce sera avec grand plaisir que nous vous ouvrirons les portes de ce studio
pour vous
recevoir, vous et votre auteur.
Ben, merci beaucoup, en tout cas,
c'est
m'avoir
tout à fait
reçu.
Normal.
C'était un plaisir.
Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, François, à une prochaine fois, et puis pour nous,
à la semaine prochaine.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Un jour, un livre, un auteur. Philippe Nonni, Philippe Subercase. L'actualité près de chez vous, c'est aussi sur Internet, radioprésence.com et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter.
présence dans la Haute Ariège, 92.7.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Terminer le cessez-le-feu dans le golfe Persique, c'est Donald Trump qui l'affirme. Les bombardements